V2. 30 V2 en bas de la colonne de gauche. C'est la colonne de gauche, la colonne de droite. Ici, la détanée Rav Yosef. En bas de la colonne de droite. Détanée Rav Yosef. 5 lignes avant la fin. Donc ça, les 5 lignes, on les a déjà faites, mais on va les refaire. Détanée Rav Yosef. Rav Yosef enseignait la chose suivante. Le verset, il dit Veodat Alem. Alors, pour comprendre ce verset-là, on va prendre la page de droite, le côté Gemara. Et dans le côté gauche du côté Gemara, vous avez Torah Or Hashalem, le verset avec des Nekudot. Il n'a pas dit la chose suivante. Non, j'en ai pas. Suivez avec M. Smadja. Il dit Veid Arta et M. Donc c'est dans la Paracha Mishpatim. D'accord ? Dans la Paracha Mishpatim, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu devras demander au peuple juif de faire attention, et à Chukim v'et à Torot, de faire attention à toutes les lois, sans raison, à tous les enseignements, ve'odat alaem, et tu devras leur enseigner, et à derech yel chuba, le chemin qu'ils devront suivre, v'et à maase asher yasun, et l'action qu'ils feront. Bon, donc là encore le début du verset, on comprenait qu'il nous disait qu'on fait attention à toutes les mitzvot, les mitzvot compréhensibles et les mitzvot moins compréhensibles. Mais la fin du verset, le chemin qu'ils suivront et l'action qu'ils feront, on a l'impression qu'on ne veut rien dire ici, on est en train de... Donc la Gemara explique. D'accord ? Cette année, Rav Yosef a enseigné, « Veodat alaem, zebetrayem. » Donc il va expliquer selon le drash. Selon le drash, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset. Quand on dit « Veodat alaem », tu devras leur enseigner, ça veut dire quoi ? Zebetrayem, ça veut dire qu'il faut leur apprendre, mis à part le fait de leur apprendre la Torah, il faut leur apprendre une parnassa. Il faut leur apprendre une parnassa qu'ils aient la possibilité de gagner leur argent. Il faut donner, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, il dit ne t'occupe pas seulement du sacré, arrange-toi aussi pour qu'ils aient une parnassa. Et à derer, quand le verset après dit le chemin, zog milut rasadim. Qu'est-ce qu'il a rajouté de plus? Il a voulu dire que, mis à part toute la Torah et tout ce qu'on a dit, il faut s'occuper de gmilut rasadim plus qu'il n'en faut. Ensuite, Asher Yelchou, c'est quoi Yelchou, donc le chemin qu'ils suivront. Zebikou Cholim, donc c'est le drash, hein. Dans le drash, chaque mot on fait quelque chose avec, c'est pour nous apprendre qu'il faut rendre visite aux malades. Ba, quand on a rajouté après le mot ba, Zokvura, c'est pour nous apprendre qu'il faut s'occuper de l'enterrement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'enterrement, c'est que quand on enterre quelqu'un, on n'attend rien en retour. Pour reprendre ce que Rav Nissimo m'a dit hier, c'est un vrai Messirut Nefesh, puisqu'on n'attend rien en retour. On ne peut pas te rembourser. Et enfin, Ve'et Amaase Zahadin. Quand il a dit après, et l'action qu'ils feront, c'est quoi le Maase? Qu'est-ce qu'il veut dire dans le Maase? Il dit ici, Zahadin, ça correspond au Din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on demande aux gens de suivre le Din que le Bedin va donner. Asher Yahasun qu'ils feront, Zolifni Mishurat Adin, c'est pour nous dire que il faut se comporter mieux que le dîner. Alors si vous voulez, je peux vous expliquer ce que le Marsha, il explique. Quand le Marsha, il explique comment de chaque mot on a appris tous ces détails-là. Bon, si vous voulez, je l'expliquerai pendant la Chazara, parce que c'est un petit peu long, mais le Marsha, il explique clairement, c'est un commentaire qui est à la fin de la Gemara, il explique clairement comment de chaque mot que la Gemara a dit ici, de chaque mot, par exemple, comment du mot veut être amassé, l'action, quel rapport avec le dîner. Je pense, à mon avis, de le ramener dans les notes aussi, donc si tu veux, on verra ça à la Chazara. Mais c'est pas sur ça que je voulais m'arrêter. La Gemara pose la question suivante. Amarmar, maître a dit. Tu m'as dit que Yelchou et Bikur Cholim. Tu m'as dit que, qu'est-ce qu'on apprend du mot Yelchou? On apprend que la mitzvah de Bikur Cholim de rendre visite aux malades. Gemara, elle pose la question, elle dit, mais Haïn ou Gmilut Rasadim? Et tu m'as déjà dit que, de un mot juste avant, tu m'as appris la mitzvah de Gmilut Rasadim. Donc Gmilut Rasadim et rendre visite aux malades, c'est la même chose. C'est quoi la différence? La Gemara répond, elle dit, non. La nitrecha, et là les ben gilo. Pourquoi on a besoin de te dire bikur cholim? Pour te dire que c'est un cas particulier ici. C'est ben gilo, c'est quelqu'un qui a son âge. Ça veut dire quand je rends visite à un malade qui a mon âge. Et alors, c'est quelqu'un qui a mon âge. Alors Rashi explique que ça veut dire quelqu'un qui a mon âge. Ça veut dire quelqu'un qui est né dans la même heure que moi. Même jour, même heure. Ça veut dire qu'on est né dans le même mazal. Que les astres étaient placés au même endroit. Et alors, Damarma, parce que Maître a dit, on enseignait dans la Gemara et Nedarim, Ben Gilo notel echad mishishim becholio. Que quand je rends visite à une personne qui a exactement mon âge, je prends un 60e de sa maladie.
Ça veut dire que si on vient à 60, on l'a.
Bonne question. On va voir tout de suite. Va filou achri, quand même, mi baele le misal gabe. Et le chidou serait que quand même, bien qu'on prend un soixante de sa maladie, j'ai quand même l'obligation d'y aller. Ça veut dire comme ça. Le premier verset te dit, Yimilu Trasadim, ça je suis obligé de le faire. C'est pas le choix, c'est parce que j'ai fait rien. Le deuxième verset te dit, même quand je vais tomber malade de ça. Alors bon, il y a beaucoup de commentaires qui s'arrêtent dessus, ils posent la question, est-ce que vraiment on prend la maladie d'une personne? Il y en a qui disent que, en vérité, on prend pas la maladie. Il y en a qui disent qu'en vérité, on fait simplement, comme on l'a soulagé, donc on lui enlève une partie de sa maladie. Mais la majorité des commentaires disent qu'on lui enlève vraiment de sa maladie et qu'elle vient chez nous. Quelque chose d'alpi-kabbala, je sais pas ce que c'est, en tout cas, quand on a son âge, quand on rend visite à une personne et qu'on a exactement le même âge, on est né à la même heure, on enlève, d'accord, un soixante de sa maladie.
Tu parles du jumeau.
Alors le Khatam Sofer, il pose la question de M. Bismuth, il dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a 60 personnes qui ont le même âge, qui sont nées le même âge, le même mazal, même heure,
ils
rendent visite à un malade.
Va les trouver, d'accord, les 60 en plus.
C'est un infini, parce que c'est toujours un soixantième.
Voilà. Donc il donne deux réponses. Il dit, premièrement, d'accord, c'est à chaque fois qu'il y a une personne qui vient, il enlève un soixantième de ce qui reste. Donc pourquoi?
Ah.
Eh ben oui.
Bah, mais ils viennent ensemble.
Non, il dit quand même, quand ils viennent ensemble, il y a toujours un premier. D'accord, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il dit, c'est pratiquement impossible de trouver dans le même endroit 60 personnes qui sont nées même jour et même heure.
Rendez-vous à l'hôpital, voilà,
très dur.
Tous, ils se donnent rendez-vous dans même temps.
Tu tapes d'en face beaucoup Boubouk, tu tapes, cherchons 60 personnes qui sont nées tel jour, à telle heure, au même endroit.
Donc en tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est quoi le chidouche ici? Le chidouche ici pour nous dire, c'est que même quand, ça veut dire même si à cause que je vais lui rendre visite, je vais prendre de sa maladie, si j'ai le même âge que lui, donc je vais tomber malade à cause de ça.
Mais si tu vas le voir 60 fois...
Donc ça veut dire que je vais prendre de sa maladie. J'ai quand même l'obligation d'y aller.
Oui, il te reste de la force quand même.
D'accord, il reste de la force.
Il de force pour combattre.
Non, c'est intéressant
plus
parce que
battle, ça,
si, je vais, si on me demande de rendre visite un malade, d'accord, et que c'est une maladie contagieuse, que je risque d'attraper et je risque de mourir à cause de ça, je préserve. J'ai pas le droit d'y aller. Mais là, c'est spécial. Parce que là, je risque de prendre seulement un 60e. En tout cas, on te dit que tu as l'obligation d'y aller. Ensuite, on avait dit...
On met pas sa vie en péril.
D'accord. Un 60e de sa vie, oui.
Un 60e, oui. Ça met ta vie en péril.
Oui. C'est une mitzvah.
Ça met ta vie en péril.
Oui, bah oui. Parce que il prend un 60e de sa maladie, il le reprend, c'est lui qui le prend.
Un 60e.
C'est pas toujours battel, hein.
Pas rien. Alors, base au Gvura, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que... il y a un du verset, on a appris aussi l'importance de participer à l'enterrement de quelqu'un. On a expliqué que l'enterrement, c'est quelque chose, c'est un recette particulier qu'on n'entend pas en retour. Gmara pose la question et dit, mais Ayonu Gminu Trasadim? Tu m'as déjà dit que j'ai l'obligation de faire Gminu Trasadim. Or, l'enterrement, c'est une forme de Gminu Trasadim. Qu'est-ce que tu me prends de plus? Écoutez bien ce que dit la Gmara. L'onitzrecha et là les aken ve'ino lefik vodo. Pourquoi on a besoin de te dire ça? Pour te dire que même si c'est un ancien, et que c'est pas son caveau de s'occuper de l'enterrement. Dis-moi, ça se fait pas, je suis un rave, d'accord? Je suis un rave qui est âgé.
Je suis le même Cohen Gadol, l'idée.
Je veux pas m'occuper à enterrer, c'est pas mon caveau. Qu'est-ce qu'on te dit? Il a quand même la mitzvah de s'occuper de l'enterrement. Plus que pour Gminu Trasadim. Parce que dans le principe qu'on a pour Gminu Trasadim en général, c'est que si c'est pas le caveau d'une personne, il est pas obligé de le faire. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, par exemple, pour rendre une perte à quelqu'un, une trouvaille à quelqu'un. On a dit que si c'est pas une troupe, je trouve quelque chose de très sale et que c'est pas mon caveau de le prendre, je suis pas obligé de le prendre. Mais pour l'enterrement, pourquoi on te rappelle pour l'enterrement? Pour se dire que pour l'enterrement, même si c'est pas mon caveau, et que c'est pas mon caveau en tant que rabbin de prendre une pioche et de me mettre à creuser, j'ai l'obligation de le faire. Et enfin, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Qu'est-ce qu'on avait dit après? Asher Yahasun, Zolifni Mishurat Adin. On avait dit que, qu'est-ce qu'on apprend du pasuk Asher Yahasun? On apprend que, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'encourager le peuple juif à se comporter mieux que le dit. Après, je ferai le résumé de ce qu'on a dit. Dama Rabbi Yochanan dit la chose suivante. Lo acharva Yerushalayim, ela shenamu din Torah. Mara dit comme ça. Rabbi Yochanan nous dit que Jérusalem n'a été détruite seulement à cause du fait qu'ils ont jugé din Torah, d'accord, un jugement de la Torah. La Mara dit, c'est quoi cette histoire? Ela dîné de Migastel et d'Ainu. Bien sûr, ça veut dire quoi? Tu me dis que Jérusalem a été détruite parce qu'on a suivi le Din Torah, mais c'est... Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux pas qu'on suive le Din Torah? C'est sûr qu'on suive le Din Torah, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Et la Emma, chez Midou Dinem Aldin Torah, Velo Abdul Ifni Mishurat a dit qu'une des raisons pour laquelle, Jérusalem a été détruite, c'est quoi? C'est parce que, alors Tosfat nous fait remarquer qu'on savait qu'une des raisons pour laquelle Jérusalem a été détruite, c'était pour la Sine Atrina, pour la haine gratuite. Mais la deuxième raison pour laquelle Jérusalem a été détruite, c'est parce que on suivait exactement le dîne et on ne voulait jamais faire mieux que le dîne. C'est-à-dire les gens ils disaient c'est le dîne, c'est le dîne, moi je ne veux pas aller chercher plus.
Cet animal qui avait la lèvre.
Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il demande Moshe Rabbeinu? Hein? Qu'est-ce qu'il demande Moshe Rabbeinu ici? D'accord? Il nous demande de suivre les mitzvot compréhensibles, les mitzvot non compréhensibles. Il nous demande aussi de suivre, on a dit de que les rabbanim ont l'obligation de s'occuper que la communauté a un métier. C'est une obligation qu'ils ont. Le peuple juif, on a le, alors c'est pas spécialement sur les rabbanim, mais c'est une obligation sur la communauté de créer des emplois. D'apprendre un travail aux gens. Même si c'est un travail kadosh, mais d'apprendre un travail. Il leur demande aussi de gmilut rasadim, c'est-à-dire de faire mieux, d'aider les gens, même quand c'est pas vraiment obligé. Il leur demande de rendre visite aux malades, même quand on risque de prendre un soixantième de la maladie. Il leur demande de s'occuper de l'enterrement des gens, même lorsque c'est pas de son kavod, ça se fait pas. Quand même, il faut s'occuper. Il leur demande aussi de suivre le dîn à la lettre, et enfin, il leur demande d'aller plus loin que le dîn, de faire les finis mishurat hadîn. Et c'est de là qu'on apprend, c'est d'ici qu'on apprend, que il faut toujours chercher à faire mieux que le dîn. Mieux que le dîn, pourquoi? Puisque, normalement, une personne va te dire, mais attends, on va pas être plus royaliste que le roi. Si le roi t'a demandé quelque chose, et pourquoi tu veux chercher plus loin que ça? De là, on apprend que Dieu nous demande de faire mieux que le dîn. Maintenant, on passe à la Mishnah suivante. Ça, c'était pour compléter le sujet de la semaine dernière. La Mishnah va nous amener des cas, d'accord? Va nous amener des cas que, dans lesquels on est quitte de rendre la perte. D'accord? Alors, pour deux raisons. Ou bien parce que l'objet perdu n'est pas considéré comme une perte. D'accord? Ou bien parce que celui qui a trouvé l'objet, il va perdre de l'argent en le ramenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va avoir deux styles de cas. Premier type de cas, c'est, on me dit que je n'ai pas l'obligation de prendre l'objet parce que on considère que l'objet n'est pas perdu, il est abandonné. Et deuxième catégorie, c'est, on va dire, que c'est un objet que je vais perdre de l'argent en le ramassant, donc du coup, on m'oblige pas à le ramasser. D'accord. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Ezoï Aveda. Qu'est-ce qu'on considère comme une perte, comme une trouvaille, qu'on a l'obligation de rendre? Matsa Hamor Opara Roin Baderer. Si une personne trouve un âne ou une vache en train de paître dans le chemin, il n'y a personne à côté d'eux. Enzo Aveda, ce n'est pas considéré une perte. Pourquoi? Puisque c'est l'habitude des propriétaires de laisser leur animal, aller paître dans les chemins. Donc certainement que le propriétaire est pas très loin et qu'il va reprendre. Donc moi, en voulant rendre service, je vais lui casser les pieds au propriétaire. Donc je ne touche pas.
Mais je l'avais laissé manger. D'accord? Là-bas. Qu'est-ce que tu me
demandes? Je t'ai rien demandé, tu ne touches pas. D'accord? Ensuite, Chamor Vekelav Afurim. Si maintenant une personne trouve un âne, Vekelav Afurim. Ça veut dire il voit que l'âne il a toujours une, comment on appelle le...
La selle.
Il a une selle sur laquelle on pose des ustensiles. La selle normalement est posée sur l'âne. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un âne en train de se balader avec la selle qui est renversée.
L'âne, d'accord, est bourriché.
Donc il y a un problème.
Il voit Shrek.
D'accord.
Il s'est fait agresser.
Oh les copains.
Il s'est fait dépouiller.
Donc, il y a un problème. D'accord. Ou bien, para rata banakramim. Ou bien, il voit une vache qui est en train de courir entre les vignes. Et vous savez que quand elle court entre les vignes...
Elle flingue tout.
Non, pas seulement qu'elle flingue tout. Elle se fait mal.
Ouais.
D'accord, ça fait mal, ça pique, ça lui fait mal.
Elle est appelée.
D'accord. Donc ça, c'est considéré à réseau Aveda. Ça, c'est considéré comme une perte. Pourquoi? Une vache folle. Pourquoi on considère que c'est une perte? Puisque on considère que le propriétaire n'est pas derrière. Le propriétaire a perdu sa vache. Sinon, ce cas ne serait pas arrivé. Donc là, vous voyez que la Michelin nous demande d'analyser la situation. D'analyser la situation et d'essayer de réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui a été perdu ou pas? Je pose une question.
Pour la vache folle, il y a quand même un risque que la personne, si on dit qu'elle est égarée,
oui,
il va pas prendre le risque de, de nuire à sa vie en essayant de la...
Non, elle est pas folle. Il voit qu'elle est en train de... Ça veut dire qu'il voit qu'elle est perdue, quoi.
Ouais, mais...
D'accord. Donc lui, il va la récupérer.
Elle se balade.
Regardez. Un autre cas aussi qu'on peut avoir. Un exemple. Si je trouve dans la rue... Si je trouve dans la rue une voiture, avec les clés dedans, allumée, le contact allumé, d'après vous, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il est parti acheter un croissant et qu'il n'a pas de batterie. S'il arrête son moteur, il va pas redémarrer.
D'accord, ça veut dire ça, d'après vous. Donc, est-ce que je me dis, je veux prendre la voiture, je vais l'amener à la police parce que la voiture est perdue?
Pas du tout.
Pas du tout. T'as rien demandé. Vous comprenez? Maintenant, si je vois, par exemple, les clés d'une voiture posées sur la voiture...
Il a oublié. On l'a appelé au téléphone, il a
oublié.
Répondu.
Donc là, c'est une perte. Donc là, il faut que j'essaye de localiser le propriétaire. Parce que c'est clair que c'est un autre qui va passer, il va prendre la voiture.
Donc les mitzvot ne sont pas pour les gens stupides non plus.
Vous voyez, il faut réfléchir. Je vois la clé sur la voiture, je dis, attends, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police. Ou je l'amène, je sais pas ce qu'on fait dans ce cas-là.
Bah, déjà, je récupère la voiture.
D'accord.
Les clés.
Je récupère les clés, j'ouvre la voiture. Bon. Peut-être que dans la voiture, il y aura une carte grise. D'accord. C'est avec
courrier.
La carte grise, du courrier. Je vais essayer de faire mon enquête parce que c'est clair que sa voiture est perdue, le gars.
D'accord.
Alors, vous voyez, c'est des exemples, ça. Maintenant, la Mishnah veut nous dire ici que, ça, c'est un premier point, la Mishnah vient nous dire que, donc, on a l'obligation d'analyser est-ce que c'est un objet perdu ou c'est un objet qui n'est pas perdu. Maintenant, deuxième point que nous dit la Mishnah. La Mishnah va nous parler d'un cas, va nous dire qu'on a l'obligation de rendre la trouvaille, même si on la retrouve plusieurs fois, par exemple. Si une personne, d'accord, a trouvé un animal qui s'est perdu, et il le rend propriétaire. Ou vacha, et elle se ressemble encore une fois. Le propriétaire, il a un peu la tête en l'air. Vechezira, il rend le propriétaire. Et bacha, elle s'est encore sauvée une fois. Ça veut dire que le propriétaire, il a la tête en l'air. Et moi, je suis un voisin, et j'essaye de rendre service, mais là, je vais attendre, monsieur. Combien on peut rendre service? Ça y est, ça suffit. Afilu arba vachamisha peamim, même 4 ou 5 fois, même si ça n'arrête pas d'arriver, qu'est-ce qu'on nous dit? Chayav la chazira, j'ai l'obligation de la rendre. Shenemar, comme c'est écrit, achev teshivem la richa, d'accord? Achev teshivem la richa, tu as l'obligation de la rendre à ton frère. Même si c'est plusieurs fois. D'accord? Alors la Gemara va expliquer plus loin, qu'est-ce que ça veut dire 4 ou 5 fois, est-ce que ça veut dire même plusieurs fois? La Gemara va expliquer juste après. Maintenant.
Et quand ça lui coûte des frais, il est tenu...
Ah, on n'a pas encore parlé des frais. Ah. On va parler tout de suite. Là, pour l'instant, on parle du fait que... Ça arrive des fois. Quelqu'un est par exemple. Ça arrive, le voisin, tous les jours, il perd son chien. Et moi, je le vois perdu dans la rue. Je le vois en train de chercher, comme ça, sa maison. Je le ramène. Je dis, monsieur, faites attention. À chaque fois, je lui dis 3 fois, 4 fois, 5 fois, faites attention. Et il oublie. Tête en l'air. Il pose son portable, il oublie. Je dis, monsieur, faites attention. Mais j'ai quand même l'obligation de lui rendre. Sans fin. Je peux le réprimander si je veux, je peux lui dire une autre personne aurait pu le trouver, il l'aurait gardé, mais je suis obligé de lui rendre. Maintenant, on va arriver à la question de M. Daniel. La question de M. Daniel, c'est, je veux bien le rendre, mais je perds de l'argent, puisque time is money. D'accord, le temps, c'est de l'argent. Et pas seulement ça, des fois, je perds de l'argent. D'accord, moi, je travaille, je sais pas, moi, par exemple, mon magasin est ouvert, chaque heure que je suis pas là-bas, il y a de l'argent qui est perdu.
Et même les risques.
D'accord, il y a des risques.
Quand c'est un animal.
Bien sûr.
Parce que lui, il ne connaît pas.
Alors, il
trouve un lion qui est perdu.
Alors, Aya, Batel, Misela.
HM.
D'accord. Si maintenant, celui qui a trouvé, Batel, Misela, ça veut dire que, à cause du fait qu'il va rendre la trouvaille, il va perdre un Sela. Un Sela, c'est une somme de l'époque. On va dire, il va perdre 100 euros. Le Yomarlo, Ten Misela. D'accord. Il ne peut pas dire... au propriétaire de la trouvaille, il lui dit, voilà, j'ai perdu 100 euros à cause de toi, donne-moi 100 euros. Je viens de perdre 100 euros, là. Tu me donnes 100 euros.
Donc là, non.
Attendez, il lui dit pas. Et là seulement, on finit d'abord la Mishnah. Notenlo straro kepoel. Il peut exiger qu'on lui donne son salaire comme un employé. Ça veut dire, on estime combien un employé est payé. Un employé standard. Combien un employé standard est payé. Aujourd'hui, on aurait dit le SMIG. D'accord. Combien vaut une heure de SMIG? Et il a le droit de lui réclamer une heure de SMIC. Mais il ne peut pas lui dire, si lui maintenant une heure de tout son travail, ça valait 100 euros, il lui dit, désolé, c'est pas mon affaire. D'accord? Alors, maintenant, attendez, maintenant, si maintenant une personne, Oui. Donc, si maintenant une personne n'a pas envie, il dit attendez, je vais perdre 100 euros, je n'ai pas envie de perdre 100 euros pour gagner 10 euros, cette histoire. C'est pas bon. D'accord ? Combien c'est une heure de SMIC ? 8 euros, 10 euros ? D'accord ? Je ne vais pas perdre 100 euros pour gagner 10 euros, ça ne m'intéresse pas ton histoire. Alors regardez la technique qu'elle donne la Mishnah. D'accord ? Im yesh sham, s'il y a là-bas, 3 personnes qui forment donc un beddin, comme ça Grashi explique, beddin, matne bifne beddin, il fait la condition devant le beddin, donc ce n'est pas un vrai beddin, c'est 3 personnes qui forment un beddin. D'accord ?
Mais c'est un vrai beddin.
Il fait la condition devant donc ce beddin-là, qui ne veut pas rendre la trouvaille, seulement si... qui ne rendra pas la trouvaille, enfin si c'est une voiture par exemple, seulement s'il payera 100 euros. Et là, à ce moment-là, puisqu'il a fait la condition devant un beddin, il peut lui exiger 100 euros. Veimensham beddin, si maintenant il n'y a pas de beddin, bifnemi yetne, devant qui tu veux qu'il fasse la condition? Dans ce cas-là, c'est quoi le din? Chez le kodem, mais 100 euros passe avant les 10 euros de l'autre.
Surtout si l'objet, il est vaut.
Oui, là on parle d'un cas qui est vaut. Ça on verra après.
Tiens, je te rapportais tes deux vieilles paires de
chaussures. Non, mais ça en vérité, on verra après, mais on a vu aussi avant avec les vaches, avec les poules, vous vous rappelez? On a dit que je dois le garder que... Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait dit que je dois le garder seulement un mois, trois mois, etc. Ça veut dire qu'il y a une histoire de rentabilité.
Bien sûr.
C'est évident. D'accord? Donc on a appris trois choses dans la Mishnah. Premièrement, on a appris qu'on a le devoir d'analyser est-ce que l'objet est perdu ou pas.
Je n'ai pas compris une chose.
Oui.
Si on a dit que pour les 100 euros, c'est prioritaire par rapport à ramener la chose.
Oui.
Donc à quoi ça sert s'il constitue un beddin? Parce que dans un cas, il sera remboursé le minimum, donc les 10 euros, si la valeur de l'objet elle est inférieure.
Uh-huh.
Et si elle est supérieure, il n'est pas tenu de ramener l'objet. Alors à quoi ça sert de faire un beddin?
Je répète.
C'est pas ça.
Regardez. La Mishnah nous a appris trois choses. Première chose que la Mishnah nous a appris, c'est qu'on a l'obligation d'analyser est-ce que c'est un objet perdu ou un objet qui est où le propriétaire est dans le coin. Ça, on est d'accord. Oui. C'est le premier point que nous dit la Mishnah. On doit faire de l'analyse, à savoir est-ce que d'après moi l'objet est perdu ou l'objet est posé. Deuxième chose que m'a dit la Mishnah, c'est quoi? Deuxième chose que m'a dit la Mishnah, c'est que même si l'objet est perdu plusieurs fois, c'est-à-dire c'est le même objet que je retrouve plusieurs fois, j'ai l'obligation de le rendre à chaque fois. Troisième point que nous dit la Mishnah, et c'est là qu'on a parlé du cas de la perte d'argent. Si moi, en journée, une heure de mon travail vaut 100 euros. Disons que voilà, je gagne bien, une heure de mon travail vaut 100 euros. Je perds 100 euros si j'arrête de travailler une heure. Et que l'objet que j'ai trouvé, d'accord, disons qu'il vaut 10 000 euros. C'est une voiture, ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de problème, il y a de quoi, c'est-à-dire que le propriétaire a droit de quoi me donner 100 euros. Moi je fais le calcul suivant, je dis je suis prêt à aller, donc à arrêter mon travail, mais à condition que je récupère mes 100 euros. Je ne vais pas perdre de l'argent pour lui. Qu'est-ce qu'on nous dit la Mishnah? Par défaut, écoutez bien ce que je dis, par défaut, le propriétaire me dira, désolé monsieur, moi je vous paye que comme une heure au SMIG. Donc je vous paye 10 euros. Si maintenant je veux... Non, c'est pas les frais. C'est comme si j'étais un employé.
Pris le métro ou un taxi.
C'est comme... Non, c'est plus que ça. C'est pas seulement les frais. C'est comme si on payait un employé à l'heure pour faire une course.
C'est l'heure basique.
D'accord, c'est l'heure basique, je sais pas, 8 euros, 10 euros, bon, d'accord. Très bien. Maintenant, si moi, je dis, écoutez, moi, je veux pas envie de perdre 100 euros. Je veux me gagner mes 100 euros. L'objet vaut 10 000 euros. Et si je vais le laisser, peut-être qu'il va les perdre, ces 10 000 euros. Alors, ce que je peux faire, je peux rassembler 3 personnes qui sont là, 3 juifs. Et je fais la condition avec eux. Je leur dis, voilà, vous me voyez ici, je prends l'objet, je vais aller le rendre à ce propriétaire, mais à condition qu'ils me rendent les 100 euros. Puisque j'ai fait la condition devant un beddin, c'est une condition qui est valable. Donc, j'ai le droit de lui exiger les 100 euros. Bien sûr, si l'objet en vaut beaucoup plus. S'il n'y a pas de beddin, et que moi j'y tiens à mes 100 euros, les 10 euros qu'il va me donner, ça ne m'intéresse pas, et bien dans ce cas-là, mes 100 euros passent avant et je laisse l'objet.
Là, le beddin, il va servir à ce qu'il se fasse payer, se fasse dédommager, à la hauteur de ce qu'il gagne,
oui.
Et de ne pas abandonner l'objet.
Exactement.
Voilà, que s'il n'y avait pas le beddin,
j'aurais
la solution de
laisser,
de laisser l'objet.
Et là, s'il veut perdre 100 euros, ça veut dire que s'il va le faire, c'est une mitzvah, quoi, la kavod. Il peut faire des mitzvahs, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas obligé. S'il va perdre de l'argent à cause de ça, chez l'Okodem.
Et si l'objet apparemment ne vaut pas les 100 euros? Il croyait qu'il valait 1000 D'accord. euros, mais en vérité, il coûte 10
en
euros.
En passant, juste, je me suis dit, avant de dire, parce qu'on a appris plutôt dans la Gemara que la Gemara nous dit clairement que mon argent et l'argent de l'autre, c'est toujours mon argent qui passe avant. Donc c'est pour ça que mon argent, mes 100 euros, passe avant l'argent de l'autre. Maintenant, vous avez une question, excusez-moi.
Oui, imagine que ça me paraît être une pièce usinée extraordinaire, et je me dis, cette pièce-là, elle va dans une machine, elle doit coûter des milliers et des milliers d'euros. Je vais perdre une demi-journée pour lui ramener au bonhomme. Et il se trouve que le bonhomme, il l'a jetée parce que c'est vrai qu'elle est très belle, la pièce, mais elle a un défaut. Elle marche pas dans le truc, donc il la tège.
Il me doit rien. Il me doit rien.
Alors le type, il arrive, dit quoi? Mais j'ai perdu une demi-journée pour vous rapporter ce truc-là. Payez-moi mes 100 euros. Non. Alors payez-moi au moins mon chômage. Non, moi, j'en voulais plus de cette machine-là. Je vous paye rien du tout. J'en veux pas, ce machin.
Il doit rien.
Il doit rien. Donc l'autre... C'est dur de faire une mitzvah.
Il a fait un mauvais calcul.
Un mauvais calcul, il savait pas. Apparemment...
C'est comme un commercial. Un commercial qui s'est fatigué, il est sur une affaire, ben, l'affaire n'était pas bonne.
Donc là, on est dans les cas où on trouve une perte, et en sachant où trouver le propriétaire.
Ah non. Disons que je vais le chercher, le propriétaire, pas de problème. Ça va me prendre du temps de chercher le propriétaire.
Mais je suis pas sûr de le trouver.
Si Dieu veut, je vais le trouver, il n'y a pas de raison. Je vais le trouver, mais ça va me prendre 3 heures de travail, par exemple.
Depuis le début, on a dit...
Là, on parle de la base...
On a dit les trouvailles, mais jamais on a parlé...
Là, on parle de la base que je vais retrouver le propriétaire. Et que le jour, je me dis, je vais toujours retrouver le propriétaire, ben, j'ai eu 3 heures de boulot, je lui demande 300 euros.
Et là, on est sûr qu'il va trouver le propriétaire, dans ces cas-là.
Lui, dans sa tête, il se dit, je vais le trouver, bien sûr.
Il se dit, il faut qu'il puisse...
Bah, s'il ne trouvera pas, il garde l'objet.
Évidemment, si c'est un objet qui n'a aucun signe et qu'on ne peut pas retrouver le propriétaire, ça devient sa propriété. L'autre, il fera yéouche, de toute façon.
Donc là, on n'est pas dans ces cas-là.
Vous trouvez un portefeuille, par exemple.
La vache, par exemple, comment il va retrouver le...
Oh, la vache.
Hein?
Le propriétaire.
Vous avez raison.
Elle est marquée.
Donc, il va annoncer. Donc ça va lui prendre du temps tout ça.
Ouais.
Lui il part de la base que normalement par défaut on retrouve. Il va retrouver le propriétaire. Ça prend du temps, mais il va retrouver. Donc Monsieur Bismuth a bien dit, il y a des frais qu'on va devoir lui rembourser. Mais à part ça, il a du temps. Zman, du temps. Ça vaut de l'argent le temps. Alors la seule chose qu'il pourra réclamer, c'est qu'on lui paye ce temps-là. Alors si s'il a pas de bête dit, la seule chose qu'il pourra réclamer, c'est qu'on lui paye ce temps-là comme un employé.
Ce qu'il faut dire, c'est que sur ces trouvailles-là, il y a forcément un siman qui fait qu'il va pouvoir retrouver le propriétaire.
Oui.
Pas sans siman, sinon on va rentrer dans les cas...
C'est sûr.
Encore une fois, imagine une vache...
Oui, bien sûr, 100%.
Imagine une vache qui n'est pas cachère. Elle est vivante, elle n'est pas cachère. Et elle ne donne plus de lait. Parce que elle a... Donc c'est devenu un problème. Elle fait que bouffer, elle sert à rien.
Et pourquoi elle n'est pas cachère?
Comment? Parce que, par exemple, c'est un pigoule, elle a un moum qu'elle a été offerte et qu'elle est devenue invalide et que donc on ne peut plus la bouffer.
Elle peut bosser.
Hein?
Elle peut bosser.
Une vache?
C'est pas sûr.
Disons qu'elle boite, elle ne peut pas tirer une charge. Elle est devenue une charge. Elle bouffe bien plus qu'elle consomme.
Non, elle avait un goy.
Oui.
Bon.
Oui, mais il n'y a plus de propriétaire.
Allez, on y va. Alors, nous dit la Mishnah, la Gemara, la chaussure. Donc là, on est à la Gemara. Vous avez la Gemara? En grand, c'est écrit Gemara. La Gemara nous dit la chaussure. Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? On a appris que celui qui trouve un âne, que les ustensiles, on a dit que la selle est renversée. Donc bon, on aurait pu donner un exemple moderne aujourd'hui, une voiture, je sais pas, du style porte ouverte, il y a un truc qui...
Dépouillé.
Que tu vois qu'il y a un problème.
C'est fait dépouiller.
D'accord? Tu vois qu'elle a passé, elle a pris des coups. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on te dit? On a dit dans la Gemara, que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Que ou bien une vache qui est en train de courir, etc. On considère que c'est une perte. Mais sinon, c'est pas une perte. Si Sam elle se balade dans la rue, on considère qu'elle n'est pas perdue. Gemara, elle pose la question, elle dit, à tout, voyons. Est-ce que tu vas me dire que Kol Anedam Rinan Lav Avedaou? Est-ce que tu vas me dire que tous les cas qu'on a dit, tous les cas qu'on a cités jusqu'à cette Mishnah, c'est pas des pertes? D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire? C'est en train de me dire, tu m'as donné un exemple. Qu'est-ce que tu m'as donné comme exemple?
C'est ma question.
D'accord, justement. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que, dans les autres Mishnayot qu'on a eu d'avant, on a eu d'autres cas. D'accord? Ça va ressembler à votre question. On a eu des cas d'une personne qui a trouvé des ustensiles, une personne qui a trouvé de l'argent, une personne qui a trouvé ce que vous voulez.
C'est la même chose.
D'accord? Alors la question qu'on pose Dagmara, elle dit, mais je comprends pas, tu m'as donné deux exemples particuliers. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu notes ces deux exemples particuliers? Et tous les cas qu'on a dit avant, c'est pas des cas dans lesquels aussi il y a le concept de la Veda qui existe? Pourquoi tu m'as donné deux cas particuliers d'un âne et d'une vache?
Des cas similaires.
Amar Rav Yehuda, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en vérité, moi quand je vous expliquais la Mishnah, je vous expliquais le concept des cas similaires. Mais quand on lit la Mishnah, en vérité, la Mishnah nous a dit, qu'est-ce qui est une perte s'il a trouvé un âne ou une vache? Donc si je prends texto de la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire
qu'il y a un autre système pour d'autres objets.
Ça veut dire qu'il n'y a que ça. Il y a la vache et la...
Ah, c'est tout ce qu'on peut perdre.
Voilà, tout ce qu'on peut perdre, tout ce qu'on peut trouver. Mais attends, il y a d'autres choses. C'est pour ça que Rabbi Yehuda intervient, il dit non. Ezoiklal Aveda, Sheuchayaba. En vérité, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Quand la Mishnah dit, rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Ezoi Aveda. Quand la Mishnah nous a dit, qu'est-ce qu'une perte? D'accord? Elle voulait pas me dire qu'est-ce qu'une perte, c'est quoi les seuls cas d'une perte. C'est pas ça ce que vous voulez me dire. Elle voulait me dire quel est le concept d'une perte. Ça veut dire dans quel cas on considère que c'est perdu. Et on a donné des exemples. Mais il est évident que, comme ce que M. Daniel a dit, que ces exemples-là, on va les appliquer dans tous les autres cas. Dans de l'argent, de l'ustensile, etc. Donc, matza par hamor ou par arroïm baterer, enzo aveda, velo michayavva. C'est des exemples qu'on a donnés. Que si une personne a trouvé un âne et une vache, ou une vache, qui était en train de paître dans le chemin, c'est pas une perte. Velo mechayavva, donc il n'aura pas l'obligation de la rendre. Mais, chamor vekelav afurim, mais s'il a trouvé un âne avec les ustensiles qu'il y avait dessus qui étaient renversés, para verata ben akramim, ou bien une vache qui courait, on a dit, entre les vignes, arezo aveda ou mechayavva. D'accord? Donc, donc c'est considéré comme une aveda, comme une perte, il doit le rendre. Ça veut dire en d'autres termes, la Gemara répond qu'on a mal compris la Mishnah. Si bien que la Mishnah a dit, si je lis texto la Mishnah m'a dit la chose suivante. Elle a dit, qu'est-ce qu'une perte? Elle me répond, s'il a trouvé un âne ou une vache. Donc celui qui vous entend, il comprend que les autres cas, c'est pas une perte. La Mishnah dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et Zoï Aveda, il ne faut pas comprendre qu'est-ce qu'une perte. Il faut comprendre dans quel cas c'est considéré une perte. Dans quel cas l'objet est considéré perdu? Et là, ça voudrait dire que c'est seulement un exemple qu'on a donné.
Entre nous, c'est pas le commencement, ça, des trouvailles. On ne doit pas commencer normalement. C'est la source, ça.
Bien sûr.
Non, mais justement.
Mais ce qui a dérangé la Gemara...
Pourquoi on ne commence pas par ça, déjà?
Ce qui a dérangé la Gemara...
Qu'est-ce qu'on appelle une perte? Et après, sur ça, tous les cas, ils vont venir se greffer. Non?
Ce qui a dérangé la Gemara, ici...
Bizarre.
Ce qui a dérangé la Gemara, c'est qu'on a employé le terme Ezoï Aveda. On a dit, qu'est-ce qu'une perte? Bien que, alors, on a donné deux cas. C'est-à-dire qu'on dirait que les autres cas, tous les autres cas, c'est pas des pertes. C'est pour ça que la Gemara dit, maintenant, on a eu des dizaines de cas déjà jusqu'à maintenant. C'est la Gemara. Elle a dit non. La question que la Mishnah a posée, qu'est-ce qu'une perte, ça veut dire, dans quel cas je considère qu'un objet est perdu. Après tout ce qu'on a dit, tous les cas qu'on a donnés, la question qu'on se pose, c'est, qu'est-ce qu'on considère comme un objet perdu? Et là, on a donné la réponse. On a demandé de pratiquer l'analyse. Après tout ce qu'on a dit, il faut pratiquer l'analyse, il faut réfléchir. Est-ce que l'objet est perdu ou l'objet n'est pas perdu?
Et pourquoi ils ont pris une créature vivante qui est susceptible de bouger? Et pourquoi pas un objet fixe? C'est curieux quand même.
Je vois le balai.
Alors, vous allez voir, la Gemara va poser la question tout de suite.
Il a accidenté le balai.
D'accord. Gemara va poser une question plus forte que ça.
Il a eu un accident là.
Parce que ça, c'est un animal qui peut s'enfuir. Ça peut être un chameau, un chien...
Il a un morceau ?
Il manque un morceau.
Ah.
J'ai les petits, il manque un morceau.
C'est grignoté, ça.
La Gemara va poser la question suivante. Une question qui va rejoindre la question que vous voulez poser, M. Bismuth. La Gemara nous pose la question suivante. Si je vois un âne qui est perdu dans la route, et je le vois pendant 10 jours comme ça, est-ce que je veux dire que son propriétaire est toujours derrière ? Et là, vous allez comprendre pourquoi on donne l'exemple d'un objet vivant.
Parce que c'est peut-être son endroit.
Justement. Mais la question que la Gemara pose, elle dit, mais si je vois l'objet comme... Je vois un âne, je le vois tourner dans la rue comme ça pendant 10 jours. Est-ce que je veux dire pendant 10 jours, son propriétaire est derrière? Et là, on va comprendre avec ça pourquoi on nous donne un exemple d'un être vivant. D'accord? Pour nous apprendre qu'il y a des chidouchines particules dans un être vivant. Donc la Gemara a dit la chose suivante. D'accord? Bien sûr, exactement. Après, on dira qu'elle va remettre. Donc la Gemara a dit, Ouléolam, mais je comprends pas, tu m'as dit que si je vois un animal en train de paître dans la rue, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que certainement il a été posé par son propriétaire et qu'il va le reprendre. La Gemara a dit, mais attends, Ouléolam, toujours c'est comme ça? Ça veut dire, si je le vois pendant 10 jours comme ça, je le laisse, et jamais je dis qu'il est peut-être perdu. Donc il faut bien donner une limite, à partir de quand je considère qu'il est perdu. Oui, vous savez ma question? Ouais,
alors qu'il peut ne pas avoir le signe de la scène renversée, par exemple.
Voilà, il a rien du tout, mais bon, parce que l'âne, il était dans un champ, il est resté dans le champ.
Il a brouté, tranquille.
Il a brouté tranquille, moi je suis dans un champ à côté.
C'est passionné.
Je suis dans un champ à côté, je le vois tourner, je vois qu'il n'y a rien du tout. Je le vois tourner, il n'y a rien qui se passe. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Rav.
L'âne de Rav.
Rav Yehuda a dit au nom de Rav. D'accord. Hatch le Shayamim. Jusqu'à 3 jours. Ça veut dire quoi jusqu'à 3 jours? Ça veut dire que celui qui voit un animal en train de paître, d'accord, il se dit que certainement, elle est restée, certainement c'est le propriétaire. Attention, on ne parle pas d'un animal en train de se balader dans la rue. On parle d'un animal en train de paître. Dire qu'il est... Donc là, on se dit que certainement, il a été laissé par le propriétaire. Mais si tu le vois paître, si tu la vois paître plus que 3 jours, certainement que le propriétaire l'a perdu. Le Gemara a dit, mais c'est quoi ça, 3 jours? Il dit, Echidami. Lequel qui est par Rabbi Yehuda? Ibelel Vata. Si tu me dis qu'il l'a trouvé au milieu de la nuit, dans ce cas-là, Afilu Hadasha Tanami. Même si une heure, je l'ai trouvé perdu, c'est-à-dire que c'est clair que je dois la, que c'est considéré perdu. Pourquoi? Parce qu'un animal ne reste jamais dehors, on ne met jamais un animal à brouter pendant la nuit. Un animal, pendant la nuit, il va dormir. Donc si tu me dis que c'est pendant la nuit, même si je trouve un instant, je dois la rendre. C'est fini. C'est clair qu'elle est perdue. Ibi mama, ici, d'un autre côté, je le vois pendant la journée. Afilu Tuvanami. Même si c'est plus que 3 jours, parce que c'est possible que chaque jour, le propriétaire l'a amené. D'accord? Namilo? Vous avez compris, c'est la question qu'a posé Agmara?
Oui, il n'y a pas que les critères du désordre apparent.
Non, il n'y a pas de désordre, là.
Oui, là, il n'y a pas de désordre.
Là, il n'y a pas de désordre.
Il y a un timing qui est bizarre.
Imaginez le cas, voilà. Je répète le cas. Imaginez, vous avez un animal. Vous avez un animal qui vient pour brouter. D'accord? Voilà, on va donner un exemple plus facile. J'y vais tous les jours à la synagogue. Et tous les jours, je vois un téléphone portable en train de se charger. Chargeur avec un téléphone portable. D'après vous, est-ce qu'il est perdu? Là, je viens aujourd'hui, je vois un téléphone portable.
Non, il y a bien quelqu'un qui l'y a mis intentionnellement.
Il y a bien quelqu'un qui l'a mis. Je reviens demain, je le vois toujours là. Je reviens 3 jours plus tard, je le revois toujours là.
Il sait plus où il l'a mis.
Donc qu'est-ce que dit Rav Yehuda? Qu'est-ce que dit Rav Yehuda? Rav Yehuda dit au bout de 3 jours, il est perdu. La Gemara pose la question, dit, mais je comprends pas. Si tu l'as trouvé pendant la nuit, l'objet, c'est évident que l'objet est perdu. Parce qu'il a rien à faire ici, l'objet. Donc, ça c'est pour un animal. Si tu trouves l'animal en train de paître pendant la nuit, c'est sûr qu'il est perdu. Donc mon portable, si je le trouve ici pendant la nuit, c'est sûr que le propriétaire l'a oublié, c'est sûr. Mais si tu le trouves pendant la journée, même si c'est plus que 3 jours, peut-être que chaque jour le propriétaire est venu, il a pesé et que vous êtes croisé. Donc ta notion de 3 jours ne veut rien dire. Vous comprenez la question que Gemara pose?
Parce que le propriétaire, il vient de chercher la nuit, il le ramène...
Peut-être,
oui,
je sais pas.
Il a une coupure à la maison, il a plus du...
Peut-être qu'il est venu tous les jours et il a posé.
Et nous, on fait croire ce moment-là, puisque c'est notre moment.
On s'est croisés, mais du coup, le facteur de 3 jours ne veut rien dire. La Gemara répond, elle dit non. La tricha. En vérité, on a besoin de quelqu'un en parle. Deave chazela bekadmeta. Qu'il a vu l'animal très tôt le matin. Ça veut dire avant que le jour se lève. Donc, c'est pas encore l'heure pour l'animal de paître. Ou bachacherta. Et il a vu aussi l'animal quand il faisait sombre. S'il l'a vu pendant la nuit, c'est évident qu'il faut le rendre. Mais là, le problème, c'est qu'il l'a vu très tôt le matin et très tard le soir. Klatayome, et ça pendant 3 jours.
Ouais. Peut-être son propriétaire, il le met là. Alors, et il va se coucher.
Si c'est jusqu'à 3 jours, à Brennan, on dit, il sera mouillé, il sera mêlé, et nafka. Un animal n'a rien à faire pendant la nuit pour paître, c'est clair. Mais un animal, des fois, on peut l'amener à paître un peu plus tôt. C'est-à-dire très tôt le matin ou tard le soir. C'est-à-dire tard le soir, c'est-à-dire dès que la nuit commence à tomber. C'est possible. Vous voyez l'ambiguïté qu'on a ici? C'est un cas où j'ai vu l'objet pendant trois jours. Je le voyais très tôt le matin et très tard le soir. Très tard le soir, quand on dit le soir, c'est-à-dire avant qu'il fasse nuit. C'est-à-dire dès que le jour commence à se lever et dès que le jour il fasse nuit. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Jusqu'à 3 jours, tu n'as pas de preuve. Tant que tu l'as pas vu la nuit, il n'est pas perdu. Peut-être que le propriétaire l'a mis un peu plus tôt, pendant 3 jours, parce qu'il avait des choses à faire. Donc il l'a amené plus tôt le matin pour brouter, et plus tard le soir. Parce qu'il avait des choses à faire, il avait une journée chargée. Mais si c'est plus que 3 jours, là qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que j'ai l'obligation de le rendre. Faut pas oublier, pourquoi j'ai amené l'exemple d'un chargeur avec un portable? Parce que, faut pas oublier qu'un animal, quand vous laissez paître, brouter dans un champ, il peut rester 10 jours comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Si le champ est cloisonné, etc.
Et il boit pas.
D'accord? Et disons qu'il y a une petite fontaine qui passe. Il peut rester 10 jours comme ça, il n'y a pas de problème. Il bouge pas. D'accord?
Et si maintenant son propriétaire, il a décidé de le programmer de la sorte, c'est-à-dire de l'amener très tôt et de le prendre très tard.
Là, c'est là qu'on nous dit. On nous dit ici que lorsqu'on... Ça veut dire en d'autres termes...
C'est possible.
C'est possible, c'est vrai. Il y a le tout, il faut de tout pour faire un monde. Mais,
il n'y a pas de pelle On n'a pas de pelle. Je vais amener des trucs, moi.
Il y a
des pelles. On a des pelles quelque part. Elles sont où?
Tu vois plus?
Elles sont où les pelles? La pelle en bas? Dans le placard en bas de l'escalier? C'est sûr. On a un placard en face, hein, quand on descend les marches.
Non, les enfants hier, ils ont...
Il paraît qu'il y a des pelles dedans.
Les enfants hier, ils ont cassé le balai. Ils étaient excités, les enfants hier.
Ah oui, parce qu'ils ont vu Harry Potter et ils veulent faire...
Bon.
Il faut les enfermer, alors les... Pas les enfants, hein, déjà. Les pelles et les balais.
J'ai vu qu'on a enfermé un...
Ah oui, bien sûr qu'il y a des placards pour les
pelles. Ils m'ont cassé hier la poignée du congé.
Est-ce qu'on peut...
Il faut être fort, hein, pour le faire.
Et il faut le...
C'est un truc pro.
Il faut improviser, hein. Quand
il faut forcer.
Quand il se passe des choses, il faut improviser. Il faut pas laisser, parce que après, c'est... S'il casse, et ben... Ouais, ils n'ont rien à faire. Ils...
Faire payer les parents.
Ils s'amusent.
Allez, on y va.
On appelle
on
appelle
le Shabbat, frère pleine.
Alors, on dit comme ça.
Ouais.
Donc, entre temps, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Gemara? La Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous dit que si c'est une situation inhabituelle, ça veut dire que l'animal, par exemple, pourquoi c'est une situation inhabituelle? Parce que c'est pas normal que l'animal va, que l'animal broute très tôt le matin et très tard le soir. C'est pas l'heure où on broute. Mais c'est une situation qui est inhabituelle, mais qui est logique, qui peut arriver. Si c'est une situation inhabituelle qui dure jusqu'à 3 jours, on considère que le propriétaire est derrière. Mais si elle dure plus que 3 jours, on considère que c'est perdu.
Mais là.
Mais si je le trouve pendant la nuit, ouais, ça veut dire que c'est une situation qui n'est pas inhabituelle, qui est vraiment.
Voilà, c'est ça.
Là, c'est sûr que.
Pourquoi
même
3 jours?
C'est ma question.
Et pourquoi pas 2 ou 4?
Parce que lui, ce qu'il veut dire ici, c'est que si je le vois un jour ou deux, d'accord, même jusqu'à 3 jours, on considère que c'est possible que pendant 3 jours, le propriétaire a eu une urgence, il avait des choses à faire, donc il a mis son animal à brouter plus tôt. Plus tôt et plus tard. C'est-à-dire in extremis. Il a amené très tôt le matin et très tard le soir. Mais plus que 3 jours, comme c'est une situation qui est inhabituelle.
Abraham Avinu, il aurait dû attendre avant de sacrifier le bébé.
Comme c'est une situation qui est inhabituelle. Comme c'est une situation qui est inhabituelle. Plus que 3 jours, on dit qu'on considère qu'il est perdu. Mais si c'est une situation qui n'est pas normale, par exemple, on voit un animal dans la nuit, en train de paître, que là, c'est pas normal. C'est pas inhabituel, c'est pas normal. Là, dans ce cas-là, la halakha est évidente. Je le rends tout de suite. Il est considéré comme perdu.
Ouais.
D'accord. Tanya Namiari, la Gemara nous amène une preuve pour confirmer ce qu'on a dit pour cette mesure de 3 jours. Qu'on dit, on enseignait comme ça. Matsa Talit, Vekardom, Veastratia. Si une personne a trouvé un Talit, d'accord, et une hache, Veistratia. Istratia. Ça veut dire, je sais pas comment il traduit, c'est un chemin...
Sur une voie publique.
Une voie publique, d'accord.
Une cape ou une...
Ça veut dire, même à l'époque, aujourd'hui, comment on sait que c'est une voie publique? Aujourd'hui, on sait que la rue, c'est goudronné, d'accord. La rue, c'est goudronné, alors que les trottoirs, c'est quoi, c'est du goudron aussi?
Oui, oui.
À ce qu'on dit,
c'est un trottoir, c'est réservé pour les piétons.
Oui, mais quoi la différence de matière entre le trottoir et la chaussée?
Bitume, asphalte, c'est la même chose.
Oui, mais c'est pas pourtant, c'est pas la même, c'est pas la même texture.
Oui.
Non.
Il y a peut-être un granulé plus important,
voilà, granulé.
Pour ce qu'on appelle un enrobé drainant. Pour la pluie, pour pas que les voitures dérapent, c'est un peu plus
d'accord. Bon.
Rugueux.
En tout cas, à l'époque, comment ça se passait? À l'époque, tout était en terre. On n'avait pas d'accord.
Les chemins étaient faits par le passage des gens.
Non. Il y avait des chemins dans les villes, on avait des chemins qui étaient tracés. Et on avait des grandes avenues.
Tu viens de me rappeler un bartera très sympathique sur le passage.
Il
dit, vous passez par mon champ. Et le type dit, mais il y a un chemin. Il dit, oui, c'est des gens comme vous.
C'est des gens comme vous qui l'ont fait, ouais.
Ça m'a plu.
C'est comme les avenues, le système des avenues. Ça veut dire que entre les maisons, c'était un peu catastrophique, mais il y avait des avenues dans lesquelles on pouvait marcher. Donc, s'il a trouvé un talit et une hache, Beistratia, Beistratia, ça veut dire dans la voie publique. D'accord? Vechen, également, s'il a trouvé, Pararatsa Benakramim, une vache qui court, Benakramim, entre la vigne.
On reprend cet exemple.
Arezo Aveda, oui, c'est une braïta. Arezo Aveda, c'est une perte. On a écouté bien ce cas.
Mais c'était des cas.
Talit Betsad Gader. S'il a vu, mais s'il a vu un talit qui est posé à côté d'une barrière, d'accord, une cape qui est posée à côté d'une barrière, Kardom Betsad Gader, ou bien s'il a trouvé une hache à côté d'une barrière, ou bien Para Roa Ben Akramim, une vache qui est en train de paître, pas en train de courir, entre les vignes, Einzo Aveda, ce n'est pas considéré une perte. Pourquoi? Parce que là, c'est évident que le propriétaire est derrière. Ça veut dire que quand on voit, par exemple, voilà, je vous donne un exemple, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai trouvé ici, à côté du maître Avan, là, j'ai trouvé des lunettes posées sur le rebord de la fenêtre. C'était jeudi d'avant, je crois. Trouver des lunettes posées sur le rebord de la fenêtre.
Et quelle fenêtre?
Ici, là.
D'ici, là.
À l'extérieur.
Ah, mes lunettes.
D'accord. C'est évident qu'ils étaient posés par quelqu'un.
Ouais. Oui.
Les lunettes ne vont pas atterrir là-bas.
C'est ce que nous disent. Mais il n'y a pas forcément un rapport avec le...
Non, pas du tout.
L'endroit.
D'accord. Donc, non, je
mais là, là, c'est la même chose pour le...
C'est évident. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Pour dire que c'est pas une...
Si je trouve un talit qui est posé sur une barrière... Si je trouve dans la voie publique...
Attendez. Une relation.
Si je trouve le talit dans la voie publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est clair que le talit est perdu. Si je trouve une vache en train de courir entre les vignes, c'est sûr que la vache est perdue. Mais si je trouve un talit qui est posé à côté sur une barrière, si je trouve une hache qui est posée sur une barrière, si je trouve des lunettes sur un rebord de fenêtre, si je trouve une vache en train de paître entre les vignes. De là, je comprends que quoi, qu'elle n'est pas perdue, il y a quelqu'un qui est derrière. Donc, je n'y touche pas. Écoutez, mais pourquoi on nous amène cette braïta, pour le cas des trois jours, pour
on a dit quand elle court, elle est perdue, la vache.
Oui, mais si elle est en train de paître.
Et quand elle marche, elle est pas, c'est ça?
Non, c'est ça, oui.
Quelle différence?
La différence, c'est comme ça. La différence, c'est le Rambam qui...
Elle court, elle se fatigue, elle...
La différence, c'est que quand une vache, elle court, ça veut dire qu'il n'y a personne derrière elle.
Non, ça ne court pas, une vache.
Ça court pas, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'affoler. Alors que normalement, si elle est en train de paître, elle est tranquille. C'est comme un enfant. Quand vous voyez un enfant, d'accord, en train de pleurer et courir dehors, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses parents. Mais si vous voyez en train de marcher dehors, bah c'est que ses parents sont là, derrière, ils sont en train de le voir.
S'il est futé.
D'accord. Vous comprenez, c'est la même chose.
Elle court pas.
Elle court pas, elle a pas besoin de courir. Vous avez déjà vu une vache courir?
Elle est rose.
Est-ce que vous avez déjà vu une vache courir?
Je crois que...
Hein?
Elle court, elle est heureuse, elle est en forme, elle est bien. Ah, la vérité.
Vous prenez l'autoroute des fois?
Hein?
Prenez l'autoroute?
Non, dans ma jeunesse, j'étais élevé dans les champs, alors, de mémoire, je crois.
Vous prenez l'autoroute, des fois, vous voyez des vaches en train de paître, vous les voyez courir. Vous savez combien ça pèse combien de tonnes ça pèse une vache? 3 tonnes, 4 tonnes?
Non, suivant la race, c'est entre 700 et 2 tonnes. 2 tonnes, t'as des charolaises monstrueuses.
Je rejoins votre exemple, hein, pour les lunettes.
Oui.
Là, vous nous donnez la preuve du contraire de ce que affirme la Guémara. Ça veut dire que les lunettes posées devant une fenêtre, mais le propriétaire n'appartient pas au...
Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Non, ça appartient pas à Betrabad. Mais le propriétaire ne les a pas perdus.
Il les a perdus.
D'accord. Non, mais en tout cas, j'attends un petit peu.
J'attends. Vous comprenez ce que je veux dire?
Non, je vais vous dire ce qui s'est passé.
Là, l'exemple, il est contradictoire avec...
J'ai dit, c'est pas possible que ça ait été perdu. Parce que... Ça peut pas se perdre sur, ça peut pas tomber sur le rebord de la fenêtre.
Il n'y a pas forcément un lien avec le...
Bien sûr.
Ah ben voilà.
Donc il y a quelqu'un de dehors qui les a posés.
Il les a posés, ouais. Mais il ne
c'est
sait plus.
Sûr qu'il n'y a pas de rapport, vous avez raison. On dit pas que ça appartient à votre travail.
Mais là, l'histoire de la barrière, il y a un rapport. On dit si on trouve à côté d'une barrière, on suppose que ça appartient peut-être à la...
Non
personne.
On suppose que quelqu'un l'a posé.
Comme ici.
Comme ici, comme ça. On suppose que c'est pas tombé, c'est pas tombé
du ciel. Poche, il l'a posé.
Il l'a posé. Mais après il l'a oublié. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là?
D'accord. Parce qu'il y a une barrière.
Oui. Non, pas parce qu'il y a une barrière, parce que c'est un endroit défini. Si c'est dans le domaine public posé, jeté par terre, la situation, le contexte me montre que ça a été perdu.
Ah, il peut marcher aussi à côté de la... D'accord. Barrière et le perdre.
Et là, c'est, dans mon cas, c'est pas possible. Pas possible, il faut le poser. Si tu le poses pas, ça tombe.
Non, moi, je crois qu'il y avait un rapport... D'accord. Avec le...
Ah non, pas du tout.
Le propriétaire du champ.
Mais écoutez bien pourquoi on nous aime cette braïta. On nous aime cette braïta pour nous dire l'histoire des trois jours. Quel rapport avec les trois jours? Qu'est-ce qu'on dit ici? Shlosha yamim zeachar zeharzo aveda. Si on a trouvé, même si le talit, même si mes lunettes sont posées, ici sur le rebord, ouais. Trois jours d'affilée, d'accord. Au bout de trois jours, là, je me dis que c'est une perte. C'est-à-dire comme ça. Si je trouve cet objet-là pendant la journée, je dis peut-être qu'il a posé, que quelqu'un d'autre va le prendre. Il a donné du voilà, je le pose, tu le prends, je le touche pas. Mais si je trouve trois jours d'affilée, plus que trois jours, là je considère que c'est une paix.
Mais tout à l'heure on a dit que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez dit les clés sur la voiture, puisqu'il y a un risque que quelqu'un va les prendre.
Oui, très voilà. Bien.
Donc là c'est la même chose. Je vais pas attendre trois jours et je vais revenir si quelqu'un d'autre va passer.
Non, je dis les clés sur la voiture, mais les clés dans la voiture.
Mais là c'est pareil.
Non. parce que là, c'est la même chose.
Là, c'est quelque chose qui est présumé.
Mais c'est pas mon affaire. Le propriétaire, il va me dire, je t'ai rien demandé. Je guettais de ma fenêtre en haut. Je t'ai rien demandé.
Avec un fusil à lunettes. Il veut tuer un voleur qui lui a déjà volé.
La même chose pour les clés. Mais les clés, la même chose.
Non.
On lui a volé 5 fois sa voiture et dit le prochain, il va payer.
Je vais expliquer.
Je vais le tenter exprès.
Je vais expliquer ce que je veux dire.
Ah, tu vas voir.
Mais, regardez.
Moi, j'ai un nom. Il a perdu son fils comme ça. On lui a volé 10 fois sa moto. Et le 11e, il le guette avec un fusil.
Ah.
Le petit, le pauvre, il est venu pour voir son scooter. Même pas pour le voler. Comme ça, les jeunes, ils s'intéressent, tout ça. Bing, il a pris une balle. Le type, à la fin, il avait craqué, le type. Et pendant 10 scooters, il lui vole à chaque fois. Il le laissait dans la rue. Ça fait un grand boom, ça. Bon, il y a des histoires comme ça. Donc, l'histoire des clés, c'est pareil. Si vous allez les toucher
comment
en disant...
Comment il avait un fusil?
Oui, un fusil de chasse. Tu peux acheter un fusil de chasse, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est libre.
Non, c'est un retraité, c'est des types qui avaient connu la guerre. Et ça. Ils avaient des...
Bon. Il y a des gens qui ont mis des bombes dans des transistors et des magnétoscopes. Au courant de ça.
Ouais.
Parce qu'ils se sont fait voler 10 fois, ils se sont dit, le prochain,
ouais.
Je laisse mal la porte entrouverte pour qu'il me vole exprès.
Un jour, je conduisais en voiture, en moto, pardon. Je portais quelqu'un, je roulais normalement. Un type, il voulait m'écraser. Enfin, il m'a écrasé, mais mina shamaim, j'ai pu m'en sortir, je sais pas comment. Au dernier moment, quand il m'a braqué sur moi, au même moment, j'ai pu dévier.
Et pourquoi vous voulez vous écraser?
Voilà. Je remonte à sa hauteur, donc j'étais prêt de le tuer, quoi. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, tu vois toute la rayure sur ma voiture? C'est un motard qui m'a fait ça. J'ai dit, le prochain, il va prendre pour lui. Voilà. On a des fous. Des fous, je vous dis, c'est...
Fallait aller porter plainte. Il faut faire interner, parce qu'il peut tuer des gens, ce bonhomme, pour une rayure.
Bon, en tout cas, regardez. Je vais conclure ce que dit la Mishnah ici. D'accord. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Qu'est-ce que dit
c'est le même principe.
Ah voilà, je vous explique le principe.
Quand vous trouvez, c'est la même chose. Vous pouvez dire, le propriétaire, il est à côté.
Le principe de la trouvaille est le suivant. C'est que, quand on a une situation qui est inhabituelle, quand on a une situation que ça me montre que le propriétaire est derrière, même si je pense que le propriétaire est un inconscient. Inconscient, c'est un fou. On laisse pas des clés. Mais, dans les faits, il a posé son talit sur une barrière. Sur une barrière. D'accord, bien posé à côté d'une poubelle. Bien posé.
C'est un oubli.
D'accord. Non, c'est pas un oubli.
Un jour.
Ça peut pas s'oublier, ça.
Ouais.
Ça veut dire que c'est pas perdu.
Non, c'est un oubli du moment.
Très bien. Donc, voilà. Je touche pas.
Ouais.
Je touche pas. Ouais. C'est pas mon affaire. Ouais. Je touche pas, je le laisse. Mais si ça arrive 3 jours d'affilée, là, ça montre que le gars, il a perdu son objet.
On a le même problème. Tout à l'heure, vous avez dit, moi, pourquoi je le prends? Parce qu'une personne qui va passer, elle va le voir, elle va le prendre.
Ça, je peux le faire seulement dans un cas où on voit que l'objet est perdu. Comme
il n'est jamais perdu.
Si,
c'est un oubli. C'est la même chose.
Oui, mais ça veut dire que...
Clés, c'est exactement
il
la
les
même
a perdus, ces clés.
Non.
Ils ne pas posé.
Non, c'est un oubli.
Ça veut dire comme ça. Je vais expliquer. Je vais essayer d'expliquer.
Il les a posés pour répondre au téléphone.
Non, j'ai compris votre question.
Je vois pas la différence entre...
Là, il y a une différence entre un oubli et une inconscience. Je vais expliquer ce que je veux dire.
Oui, il ne sait même pas qu'il l'a perdu, le gars.
Quelqu'un qui a posé les clés sur sa voiture. Vous savez, plein de gens, ça arrive, qui oublient les clés sur leur moto. Ça arrive. Ouais. D'accord, ils oublient les clés sur la moto.
Un oubli.
Attendez. Quelqu'un qui oublie les clés sur la moto, ça c'est un oubli. Et là c'est une perte, il faut lui rendre, c'est sûr ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un cas que je vois que c'est pas un oubli. C'est pas un oubli.
C'est forcément un oubli.
Mais non, écoutez, par exemple.
C'est pas un oubli, alors,
attendez.
Il sera pas là.
Par exemple, je vous ai donné l'exemple d'une voiture, je vois une voiture démarrer, avec le contact et tout, à côté d'une boulangerie. C'est pas un oubli, c'est sûr c'est pas un oubli. Le propriétaire est dans le coin. J'attends 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure.
Moteur tournant.
Ça, je veux bien.
Voilà.
Ça, je veux bien.
Ça veut dire quoi?
Alors,
voilà. C'est pour ça que la Gemara a donné l'exemple d'une vache qui est en train de paître.
Ouais.
Que si la vache est en train de paître, c'est moteur tournant, comme il vous dit.
Ouais.
Maintenant, peut-être, à sa place, je dis, mais c'est de l'inconscience, on laisse pas une vache toute seule. Peut-être, il n'y a pas de problème. Ça, c'est de l'inconscience. De l'inconscience, tant que 3 jours ne sont pas passés, je ne touche pas.
Ouais.
Et si c'est un oubli, là, je touche.
Et pour moi,
une voiture roulée comme
d'accord.
Ça
pour moi, dans les deux cas, c'est un oubli.
Non, pas du tout.
Pas la,
parce que par exemple, voilà.
C'est pas la preuve de la différence. Dans un cas, il a oublié sur la barrière, dans l'autre, il a oublié sur sa voiture. Voilà, vous m'apportez pas de...
Oui, mais c'est la durée.
De preuve.
Tu vas laisser, toi, t'as dit pas en 3 jours, tu t'en sers tous les jours.
Si le cas est le même...
Daniel.
Dans les deux cas, on va
conclure, on va conclure avec ça. Je vais expliquer, c'est très simple. Quand je pose les clés sur une voiture, Là, ça montre que c'est un oubli, que le propriétaire ne l'a pas fait exprès.
D'accord.
D'accord. Mais lorsque je trouve un talit, un vêtement, posé dans un endroit particulier, caché dans un endroit sur une barrière, il n'a pas été oublié là-bas. Il a été posé. Vous voyez ce que je veux dire? La clé posée sur la moto, le propriétaire l'a oublié. C'est-à-dire si on lui demande, est-ce que tu as fait exprès? Il dit, non, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié. Mais le gars qui a posé son talit sur une barrière, il n'a pas oublié là-bas, il a posé là-bas. Donc si un gars il vient, il prend l'objet, il dit, monsieur, je vous ai rien demandé. C'est mon affaire si je veux être inconscient.
Non, moi je suis pas d'accord. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je dis pas les choses comme ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que si on dit que l'endroit il se trouve un peu caché comme ça, à côté de la barrière, c'est-à-dire la personne, elle veut quand même le préserver, donc ça c'est pas un oubli. C'est-à-dire,
voilà.
Elle a fait attention.
Maintenant trois jours maintenant, d'affilée, attendez.
Maintenant quand elle a posé, hein.
Non, oui. Attends, il pleut. Ah, oui, non, visiblement, elle n'aurait pas laissé la pluie.
Son intention, c'est pas un oubli.
Maintenant, oui.
Par contre, si elle l'a posé, elle a répondu au.
Mais elle a oublié.
Elle a oublié, donc c'est le même cas que. Comprenez ce que je veux dire.
Eh bien, c'est comme s'il est perdu, oublié.
On l'a vu ce cas-là.
Vous voulez m'expliquer maintenant? Attendez.
Un peu en retrait.
Je vais donner un exemple. Vous voulez m'expliquer pourquoi quelqu'un a posé des lunettes ici la semaine dernière?
C'est un oubli.
D'accord. Mais pas du tout, c'est pas un oubli. C'est pas un oubli.
Il a posé pour se boutonner sur sa veste.
Mais c'est un oubli.
D'accord.
Mais c'est un oubli.
Donc ça c'est un oubli. Ça on peut dire qu'à la limite ça rentre dans la catégorie oubli. C'est bien.
C'est évident.
Oui, comme le cas qui m'est arrivé, que j'ai oublié la poussette à côté d'un magasin.
Elle est sûre que deux minutes après.
Vous vous rappelez?
Ça a laissé de pousser dans le magasin.
Non, à côté d'un magasin.
Deux minutes après, il n'y a plus rien. Ça s'appelle un oubli.
Et chercher parce qu'il
est posé sur la barrière, une écharpe, c'est pareil. Parce que le passant d'après, quand il va voir l'écharpe, il va la prendre. Donc si elle ne voulait pas l'oublier, elle voulait la garder, à ce moment-là, elle va chercher à la cacher. On avait dit à l'ami en bas de là,
au moins tu remets.
Comprenez, j'ai compris ce que vous voulez dire. Ça, vous voulez dire que si c'est un cas qu'on voit clairement que c'est une perte,
c'est un oubli.
D'accord, c'est un oubli, là d'accord. Moi je parle pas de ça, c'est pour ça qu'on a donné l'exemple d'une vache. Une vache qui est en train de pète, elle n'est pas oubliée.
On parle de l'écharpe là.
De quoi?
On parle de l'écharpe sur la barrière.
Non, un talit qui est posé sur une barrière.
Et ma talit, c'est une écharpe.
Oui, une écharpe qui est posée sur une barrière, c'est-à-dire que le gars il l'a posée. Il a posé, il va.
On l'a pas dit, il est par terre. Il va par terre.
Il a posé, mais je sais, mais c'est ça.
Quand il faut l'avoir posé.
Et quand il a pas récupéré, c'est forcément un oubli.
Non.
Oui, au bout de trois jours.
Au bout de trois jours.
Mais pendant les premiers jours, non, c'est posé.
Okay, je t'ai rien demandé, je l'ai posé, c'est mon affaire.
Je suis parti labourer là-bas.
Mais on pose pas l'abus de tout le monde, messieurs.
Mais bien sûr.
Mais non, on va poser quelque chose là au bout de 10 minutes.
Alors, encore une fois, on retombe sur l'inconscience.
Il y a une histoire de voie publique.
Encore une fois, monsieur.
L'inconscience, ça s'appelle l'oubli.
Non. L'inconscient, c'est pas mon affaire. Tant qu'il n'y a pas trois jours qui sont passés, je dis, mais on laisse pas une vache paître à 6h du matin, toute seule, sans, alors qu'il fait sombre. C'est pas mon affaire, c'est de l'inconscience.
Et de quels trois jours tu
l'inconscience, pas, hein.
Ça
je ne touche pas.
Ça fait déjà trois mois qu'il était là, l'objet.
Si je vois quelqu'un qui a posé un objet de manière inconsciente, je ne touche pas, c'est pas mes affaires. Tant que trois jours ne sont pas passés, c'est pas mes affaires. Passé trois jours, je vais me manifester.
En penché.
D'accord? Voilà. Donc on a fait la différence entre une perte, un oubli et une inconscience. Ça va être pour aujourd'hui.